Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons le sujet « J'ai choisi le Christ » et notre thème sera le pardon. Mais tout d'abord, afin de ne pas oublier, je dois vous dire que je suis des fois ennuyé de dire carrément chaque verset exactement selon le thème que nous étudions. Et c'est pas toujours facile d'être très exact, mais il faut l'être, parce que c'est la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas recevoir de reproches dans le sens que j'ai déjà entendu, parce que il faut comprendre que quand on veut donner un thème intéressant, si on est toujours coupé par les versets bibliques qui correspondent exactement toujours, ce n'est plus aussi fluide. Mais bon, je veux tâcher de faire au mieux et de dire les versets bibliques qui correspondent afin que vous puissiez recontrôler dans vos Bibles, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une impression, même vague, peut-être ce thème n'est pas tout à fait, ou correspond pas tout à fait aux enseignements de la parole de Dieu. Ce serait très grave de donner la possibilité à certains de penser une chose pareille. La parole de Dieu est beaucoup trop importante pour que quelqu'un puisse penser ou qu'on pourrait donner à penser que, oh oui, mais ça c'est de son cru. Non, 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 même si une fois je donne un message où je ne dis pas chaque verset biblique, ce n'est pas de mon cru, croyez-en bien et soyez-en sûrs. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est le pardon. Le pardon, très important. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus-Christ s'est étendu sur sa croix, sur la croix qu'on avait construite pour le mettre sur cette croix. Il a donc offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Et puis le gibet a été élevé, il a été fixé dans le trou, prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, lui le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Et oui, c'est vrai, c'était affreux. Cependant, ne l'oublions jamais. Il aurait pu, s'il avait voulu, agir tout autrement, avec des légions d'anges, n'oublions pas. Être accablé quand c'est inévitable, avoir tort quand on sait que l'on n'a pas raison, supporter un châtiment quand on le mérite est une chose, mais ne pas résister aux méchants, Matthieu chapitre 5 verset 39, quand on est impeccable et tout puissant, c'est ça, voyez-vous, c'est ça l'esprit de la croix. Chers amis, amis auditeurs, vous qui avez pris la résolution de suivre Jésus-Christ, vous serez aussi appelés parfois à ces saints et difficiles exercices de mort à vous-même. Alors quand vous choisirez de vous laisser plutôt dépouiller, de ne pas vous battre avec les méchants, vous serez un même esprit avec votre maître. Et ce ne sera pas faiblesse de votre part. Ce sera au contraire la victoire de l'Esprit éternel au sein de votre misère. Pour le moment, Jésus-Christ est donc crucifié, caché dans la foule. Des disciples, sans doute, doivent supplier Dieu. Ils le supplient d'intervenir, de le faire tout de suite pour la gloire de son saint nom et la confusion des égarés. Ne le pensez-vous pas, chers amis? Mais rien ne se produit. Rien du tout. Quel mystère! Souvent que celui du triomphe complet, mais toujours momentané, du mal sur le bien. Et pour les meilleurs de ses fils, qu'il semble lourd et incompréhensible, certains silences du Père Céleste. Durant tout le temps des injustes accusations dont je fus l'objet, me disait un authentique chrétien. Ce qui me parut le plus dur, ce fut que Dieu n'intervient pas pour me justifier, et ceci tout de suite ou même assez vite, selon mon espérance. Mes chers amis, qui avez été condamnés à tort, certains d'entre vous ont souvent été condamnés à tort, et qui attendaient une justification, eh bien considérez la patience, la patiente acceptation de l'Esprit de la croix. Et puis, une autre chose, sachez que Pâques arrive toujours au temps marqué. Oui, Pâques arrivera toujours au temps marqué pour celui, voyez-vous, pour celui qui garde l'esprit du maître. On peut dire Alléluia. En attendant, sur le mont du crâne, le tableau est affreux. C'est un flash de l'enfer que nous y voyons. Un juste et deux brigands vont mourir au travers du supplice le plus cruel, c'est la crucifixion. Que leurs contorsions de douleur, que les vociférations des impies, oui, que tout ce sang constitue un horrible spectacle. Et pourtant, une foule s'est rassemblée pour voir et pour entendre. Il y a toujours des gens qui aiment les exécutions capitales ou les scandales. Je me suis même laissé dire, oh oui, qu'il y avait des chrétiens qui en étaient secrètement friands. C'est difficile à croire. Et ce sont ceux qui procèdent à la noire multiplication des tristes, des stupides, mais si souvent cruelles médisances. Oui, parfois, ils prennent un air navré pour colporter ou écouter ce qui est mal, ce qui tue la réputation de leur prochain. Ceux-là ne sont pas avec Jésus-Christ sur la croix, pas du tout. Ils sont encore dans la foule méchante et contre Jésus-Christ. Et s'ils ne changent pas d'esprit, le jour de leur mort, croyez-moi, le jour de leur mort sera celui d'une terrible désillusion, car ceux-là auront trempé dans l'iniquité, dans la méchanceté de l'hypocrisie profonde que Jésus-Christ dénonce et qu'il ne peut accepter, selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 23. Amis, laissons-nous instruire dans la contemplation spirituelle de la croix et apprenons quels sont les secrets de la vie qui passe par l'indispensable mort à nous-mêmes. Durant 6 heures, Jésus-Christ a souffert en silence, à l'exception des 7 courtes déclarations. Vous le voyez, l'esprit de la croix s'est vraiment démontré d'abord par le silence, selon Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Chers auditeurs, on peut en être certain, là où l'on parle beaucoup, il y a peu de l'esprit de la croix. Le silence paisible dans l'affliction ou l'injustice, quelle grâce efficace et nécessaire. Comme l'Écriture sainte a raison quand elle dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Dernièrement, une sœur en Christ avouait ceci. J'ai remarqué que mes factures de téléphone avaient bien augmenté durant un certain temps de crise. Et j'ai compris que je prolongeais ce temps douloureux par mes nombreuses communications. Depuis que j'ai saisi ce simple fait, j'ai réalisé des économies d'argent et de temps et j'ai appris à les mieux placer. Oui, amis chrétiens, quelle est la tendance de tes factures de téléphone à la hausse ou sont-elles à la baisse? L'admirable silence de l'esprit de la croix n'a été rompu que vers 9 heures du matin. C'est à l'heure où le premier sacrifice est offert dans le temple que Jésus-Christ prononce ses premières paroles. Quelles seront-elles? Va-t-il prendre le ciel et la terre à témoin pour proclamer son innocence? Va-t-il tenter de retourner l'opinion publique en présentant un réquisitoire aimable mais implacable contre ceux qui l'accusent à tort? Non, 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 non. Jésus-Christ va tout d'abord parler à son Père. Ses premières paroles sont une prière. Oh, c'est admirable et qu'il faut avoir l'habitude de prier quand tout va bien pour savoir vraiment prier quand tout va mal. Et que dit-on en priant quand le péril nous surprend? Qu'a dit mon ami Arthur, varapeur du dimanche, quand après une chute, il se trouva suspendu par le fond de son pantalon à la branche d'un arbuste, et ceci au-dessus d'un vide de plus de 100 mètres. Qu'a-t-il dit? C'est facile à deviner. Il a dit « Seigneur, sauve-moi !» Et quelle est la prière instinctive qui monte de notre chair quand nous sommes accusés à tort? Mais celle-ci, bien sûr, c'est celle-ci que nous disons « Seigneur, s'il te plaît, justifie-moi !» Jésus-Christ est arrivé plus loin que cela. Et il nous a ouvert un autre chemin que celui de notre moi. Ce n'est pas sa chair qui prie, c'est son esprit de rédempteur. Entendez l'esprit de la croix. Jésus ne prie en premier ni pour lui-même, ni pour ses amis. Il prie pour ceux qui sont devenus des accusateurs et des meurtriers. Oui, il prie pour ceux qui se moquent aussi ou qui lui crachent même au visage. Il dit « Père, pardonne-leur ». Saint Luc chapitre 23, verset 34. Dans cette prière, le Christ donne son pardon par avance à tous ceux qui se trompent ou qui l'ont méconnu, aux Juifs, aux Romains, à chacun, à toi aussi, cher ami. Pardonner et prier pour ceux qui ont mal agi, c'est la sublime victoire de l'esprit de la croix. Toi, pries-tu? Oui, pries-tu pour ceux qui t'ont offensé ou qui ont offensé quelqu'un que tu aimes? Après bien des combats, j'ai pu prier pour ma mère qui m'avait fait tant souffrir, me disait, il y a quelques mois, une nouvelle convertie. Et sa conversion se démontrait par ce fruit de l'Esprit Saint. Vous le savez, chers amis auditeurs, le principe du pardon a été posé une fois pour toutes. Oui, il s'exprime en ces termes. Écoutez bien. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 12. Et quand quelqu'un dit « Je ne lui en veux plus, mais je ne peux pas lui pardonner », il doit transformer la prière dominicale en disant « Père, ne m'en veuille plus, mais ne me pardonne pas ». Quand un chrétien déclare « Je veux bien pardonner, mais je ne peux pas oublier », alors, il faut qu'il prie Dieu ainsi. Père, veuille bien me pardonner, mais n'oublie aucun de mes péchés. Et si nous disons, je pardonne, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne et je ne la saluerai même pas, je ne la verrai plus aussi longtemps que possible. C'est lui qui doit venir me voir le premier. Il faut alors que nous disons, « Père, pardonne-nous, mais ignore-nous complètement. » Ça vaut la peine de répéter ce passage parce que c'est très, très important. Voyez-vous, chers amis auditeurs, le principe du pardon a été bel et bien posé une fois pour toutes. Il s'exprime au terme suivant. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 12. Or, quand quelqu'un dit « Je ne lui en veux plus, mais je ne peux pas lui pardonner. » Il doit transformer alors la prière dominicale en disant « Père, ne m'en veuille plus, mais surtout ne me pardonne pas. » Quand un chrétien déclare « Je veux bien pardonner, mais je ne peux pas oublier ça jamais. » Alors il faut qu'il prie Dieu ainsi. Père, veuille bien me pardonner, mais n'oublie aucun de mes péchés. Et si nous disons, je pardonne, mais je ne veux plus rien, mais vraiment plus rien avoir à faire avec cette personne, et je ne la saluerai même jamais. Alors, mon cher ami, ma chère amie, il faut que nous disons, Père Céleste, pardonne-nous, mais ignore-nous définitivement, complètement. Chers amis, voyez-vous, le principe du pardon divin nous appelle sans échappatoire au pardon total, au pardon chrétien selon cette règle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Depuis ta conversion, dans quelle mesure es-tu pardonné, mon frère et ma sœur en Jésus-Christ? Dans la mesure où, ayant demandé pardon à Dieu, tu as pardonné à ceux qui ont fauté? Car si vous ne pardonnez pas aux hommes, croyez-moi, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 15. Remarquons aussi la charité de l'Esprit de la Croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Certes, les gens qui avaient condamné Jésus-Christ devaient bien être un peu conscients qu'ils avaient mal agi. Mais sans doute ignoraient-ils la mesure du mal qu'ils avaient vraiment fait. Il n'est pas toujours possible d'estimer l'étendue du mal que nous pouvons faire à une cause ou à quelqu'un par quelques paroles seulement. Un jour, tandis que j'observais des enfants au coin d'une rue, j'entendis l'un d'eux dire avec véhémence à un petit et devant témoin cette phrase qui m'est restée dans l'oreille. « Charles, il m'a dit que tu es un crétin. » Eh bien, je n'oublierai jamais l'expression de détresse qui fut celle de l'enfant ainsi blessé. Et ne pensons pas que toutes ces blessures soit bénigne. Un homme vigoureux m'a dit un jour ceci. Durant des années, j'ai été retenu dans mon esprit d'initiative, car je ne pouvais oublier ce que mon père, un violent, me lançait parfois à la tête. Et il me disait, tu ne sauras jamais rien faire de bien. Si l'on connaissait tout le mal moral, physique, spirituel dont on ne devient responsable par des critiques, des jugements ou par la médisance, je suis certain que l'on tournerait plus souvent sa langue sept fois avant de parler inutilement. Père, oui Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Chers amis chrétiens, le vrai pardon n'est pas possible sans un esprit de sacrifice et sans un triomphe de la charité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à sacrifier nos bonnes raisons, nos raisons d'accuser, et à manifester une charité qui sait trouver des excuses aux fautes des autres. Je répète, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à sacrifier nos bonnes raisons d'accuser et à manifester une charité qui sait trouver des excuses aux fautes des autres. Remarquons enfin que le pardon chrétien se donne avant que justice soit faite et avant même toute repentance. C'est du reste ce pardon-là, donné, qui peut amener une authentique repentance et une transformation dans notre prochain. Il y a des épouses, des maris, des parents et des enfants. Il y a des amis qui attendent une transformation profonde de leurs proches et ne la voient pas parce que Ils n'ont pas pardonné totalement, profondément, selon l'esprit de la croix. Disons-le clairement, être chrétien véritable, c'est être animé de l'esprit de Christ, selon ce qui est écrit, évidemment. Il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Néanmoins, voyez-vous, il faut faire attention de pas blesser l'esprit éternel par de vains arguments de justice ou de raison. Voilà ce que je voulais dire. Et l'amour dont le Christ nous a aimés n'était pas raisonnable. Si son esprit nous habite, eh bien, notre pardon sera donné. Oui, voyez-vous, si l'amour dont le Christ nous a aimés, supposons qu'il n'était pas raisonnable, évidemment, cet amour, elle est raisonnable parce qu'il nous aime. Et si son Esprit Saint nous habite, alors notre pardon sera donné avec prière, et ceci avant même qu'il ne soit sollicité. Et ce sera toujours un pardon qui est plein d'excuses charitables, charitables envers tous ceux qui ont mal agi. Qu'est-ce que ça t'a procuré de plus de devenir chrétien? Oui, c'est ce qu'a demandé un méchant, un groupe. Je vais le répéter. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Qu'est-ce que cela t'a donné de plus de devenir chrétien? Et qui a dit cela? C'était pas tellement un gentil groupe. C'était un groupe de mahométans entourant un des leurs qui, malheureusement, pour eux, s'est converti à Christ. « Je peux, maintenant, a-t-il dit, je peux et je sais maintenant pardonner. » C'est ce que a été l'admirable et simple réponse de ce jeune nouveau chrétien. Mes frères et sœurs, je termine ce message, cette partie du message d'amour, il faut bien le dire, et d'appel par cette anecdote authentique rapportée par le Baptist Teacher. C'est un journal chrétien des baptistes qui s'appelle le Baptist Teacher. Là, ils ont donné un témoignage. Dans notre église, on s'était rassemblés afin de prier pour un réveil. La communauté était malade, vraiment malade, comme cela arrive à certaines communautés. Elle était atteinte d'une dangereuse langueur, une sorte de laisser-aller, d'assoupissement. Mais après le chant d'un cantique et quelques prières ferventes, un silence de mort s'établit sur l'auditoire. Et chacun attendait. Alors, là, un ancien dans l'église, quel courage, il s'est levé et il a dit « Chers amis, je ne crois pas qu'il y aura jamais un réveil ici tant que frère Jones et moi-même continuerons à ne pas nous adresser la parole. » Après cela, il s'était levé, il a marché jusqu'à la place de frère Jones, et il a déclaré « Frère, vous et moi, nous ne nous sommes pas parlé durant ces 5 dernières années, rendez-vous compte. Alors, s'il te plaît, enterrons la hache de la discorde. Voici, je te tends ma main. » Et l'ancien retourna à sa place et s'assit. Un sanglot a été entendu dans toute l'église, et ce fut à nouveau le silence. Alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Durant 10 minutes ou plus, des hommes et des femmes se sont levés et sans bruit, les larmes aux yeux, ils allèrent se réconcilier avec ceux auxquels ils battaient froid. Depuis, l'Esprit Saint se manifesta et un véritable réveil éclata. Cette action particulière du Saint-Esprit vivifia la communauté entière et tout le district en fut influencé durant 3 ans. Chers auditeurs, que le Seigneur nous bénisse tous de l'esprit du salut, de l'esprit de la croix. Consentons à le manifester dans la pratique, car les rancunes et les pardons retenus sont plus néfastes à la santé que le cholestérol, et leur présence dans une communauté est plus criminelle que beaucoup d'autres péchés qui nous scandalisent. C'est pourquoi, nous dit le Seigneur, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 23. L'esprit de la croix, chers amis, l'esprit victorieux sur la chair, l'esprit de Christ, nous donne le pardon charitable, et il travaille à la réconciliation. Béni soit donc le Seigneur qui en est la source inépuisable. Notre deuxième thème, c'est la victoire de l'espérance. La Bible nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Jésus-Christ n'a pas dit « Mourez avec ceux qui meurent », mais lui, il va le faire. Il va le faire à Golgotha. Car là, il y a 3 croix. Et dessus, écorché vif et captif, il y a 3 corps d'hommes qui vont succomber à d'horribles souffrances. Il y a aussi 3 façons de souffrir. Celle de l'homme de gauche, celle de l'homme de droite et celle du Fils de l'homme, qui est au centre. Chers amis, quelle est la nôtre? Oui, quelle est la nôtre? À qui souhaiterions-nous ressembler si nous avions à connaître les injustices, les déceptions ou les grandes douleurs? Voyez ceux que l'on a appelés à tort des voleurs ou des brigands. Mais en réalité, ils avaient bien volé et brigandé, c'est vrai, mais c'était plutôt comme le font partout les guérilleros, des patriotes combattants, des occupants. C'était des guérilleros. Et ces partisans du mouvement clandestin de résistance contre les Romains se nommaient, savez-vous comment ? Se nommaient les zélotes. Leur nom indique bien ce qu'ils étaient, des zélés, les zélotes, des êtres animés d'un idéal de justice et de liberté, prêts à donner leur vie pour leur cause. En fait, Jésus-Christ aussi avait été animé d'un saint zèle, mais lui, pour une bonne cause. Évangile de saint Jean, chapitre 2, verset 17. Mais à quoi bon ? Il en était au même point. On pourrait penser à un échec. Tous les trois étaient donc pareillement cloués sur le bois d'une croix. Certes, il y avait eu de très grandes différences dans la vie des trois crucifiés. Lui, il était innocent, mais eux ne l'étaient pas. Lui avait dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Eux, ils avaient cru à la force. Vaincre par la douceur de l'amour leur semblait non seulement utopique, mais totalement insensé. Comment les Romains avaient-ils conquis le monde? Mais par la force. Comment seraient-ils chassés de cette patrie qu'ils souillaient de leur terrible présence? Eh bien, par le harcèlement de la force et par la guérilla incessante. Or, les voici, les deux partisans de la victoire agissante. Ils sont cloués au poteau de leur mort. Mais le prédicateur de l'amour, lui, le prédicateur de l'amour triomphant, il l'est aussi au poteau. Et voilà donc comment nous l'avons déjà remarqué, les représentants de la force violente et celui de l'amour exactement dans la même position et dans les mêmes tourments physiques. Amis chrétiens, voyez-vous la différence entre les véritables chrétiens et ceux qui ne le sont pas ne réside nullement dans le fait que les premiers sont obligatoirement parmi les privilégiés auxquels rien de douloureux ou de fâcheux n'arrive. En réalité, selon les enseignements mêmes du Christ, les vrais chrétiens ont souvent plus à souffrir que les autres. On aurait de la peine à le croire, et pourtant c'est vrai. Alors où est la différence ? Elle est toute dans la façon de traverser la souffrance. Les deux brigands patriotes, les deux zélotes, souffrent sans aucune espérance, tout comme le monde d'aujourd'hui qui ne peut croire qu'à la puissance. Jésus-Christ, lui, a ses pensées dirigées vers le résultat positif de ses souffrances rédemptrices. Il sait qu'à la longue, Dieu fait triompher l'amour. Il sait que ses douleurs sont celles de l'enfantement d'un salut qui, un jour, se révélera comme celui de la terre entière. Il sait qu'après avoir semé dans les larmes, il moissonnera avec joie. Écoutez l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il va nous livrer le secret de l'attitude victorieuse de Jésus-Christ au moment même où nous le contemplons. Car Jésus-Christ, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Hébreux chapitre 12, verset 2. Oui, elle est bien là, la grande différence. Les zélotes, eux, ont souffert dans le désespoir de leur faillite. Mais le Christ, lui, il a souffert avec la vision de l'espérance, celle du règne de l'amour vainqueur. Or, vous le savez, chers amis, le désespoir et l'espérance sont contagieux. Vous ne pouvez pas désespérer sans risquer d'assombrir votre entourage. Est-ce vrai ou pas? Mais votre vraie espérance, elle aussi, est un puissant appel pour ceux qui vous connaissent. L'un des crucifiés s'endurcit en résistant à l'Esprit Saint rayonnant de Christ. C'est pour lui la défaite totale dans l'épreuve, car personne ne voudrait vivre un pareil échec, n'est-ce pas? L'autre, plus sensible à la victoire intérieure du Maître, et il lui dit, « S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Saint-Luc, chapitre 23, verset 42. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Remarquez, mes chers frères et sœurs, comme il est facile de s'approcher du Christ. Il n'y a pas de formule particulière à prononcer. Il n'y a pas de rituel à suivre. Il n'y a qu'à laisser s'échapper l'appel de notre âme qui est en détresse et dire « Kouri eleison, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, oui, sauve-moi. » Chers amis, que nous voilà loin de nos complications théologiques ou de nos schémas évangéliques, ne trouvez-vous pas? Si je m'adresse en ce moment à quelqu'un ayant besoin du secours de Christ, que celui-là lance son appel sans plus s'inquiéter de savoir comment, le Seigneur lui répondra, croyez-moi, qu'elle est admirable, la réponse de Jésus en Golgotha. Écoutons-la avec émerveillement, cette réponse. Il a dit, selon Saint-Luc chapitre 23, verset 43, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus-Christ n'annonce pas une attente prolongée, un purgatoire, une lente évolution, mais bien un immédiat et plein salut. Entendez cette bonne nouvelle, Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 7, verset 35. Je répète, Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu, par Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Donc, pour le supplicié en croix, eh bien, le salut par Christ ne fut pas la restauration d'un passé lointain ou même d'un passé tout proche. Non, non, non. Christ ne sauve pas en regardant en arrière. Ce ne fut pas non plus l'annonce d'un naufrage dans la confortable inconscience du sommeil. Jésus-Christ dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour le converti, quitter son corps, c'est être présent avec le Seigneur, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Là où il n'y a plus de lâche, plus d'incrédule, plus d'abominable, d'impudique, de méchant. Là où la douleur et la mort ne sont plus, où l'amour, la paix et la joie rayonnent enfin son ombre, selon Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et verset 4. Donc, Apocalypse, chapitre 21. Je répète, là où la douleur et la mort ne sont plus, où l'amour, la paix et la joie rayonnent enfin son ombre. Ainsi, voyez-vous, à Golgotha, comme dans nos souffrances, il y a eu une lutte cachée dans, ou si vous voulez, entre la puissance du désespoir et celle de l'espérance. Ça, il faut bien le dire. Je répète, donc, vous avez compris, à Golgotha, comme dans nos souffrances, il y a eu une lutte cachée entre la puissance du désespoir et celle de l'espérance. Et le Christ a été donc vainqueur, vainqueur du désespoir. Il a vu le paradis et il en a parlé bien qu'en plein tourment. Il en a parlé. Chers amis, si l'esprit de la croix est celui de la victoire et de l'espérance, alors le désespoir, lui, est vraiment une manifestation de l'esprit de Satan. Et le meilleur moyen de communier avec Satan n'est pas d'être infâme, mais tout simplement de demeurer dans le désespoir, cette terrible prison dont le Christ est pourtant l'issue absolument ouverte pour nous. Il est un exemple. Il y avait Mario, qui était enfermé dans un sombre cachot. Car à 17 ans déjà, il lui fallait près de 200 francs par jour pour se payer de l'héroïne, la drogue trompeuse dont il était l'esclave. Il avait volé, il avait vécu de la prostitution. Il s'était fait placeur et trafiquant de l'infernale poudre. Il était devenu une loque morale et physique, sans vie spirituelle. Or un jour, dans son insondable désespoir, armé d'un long poignard, il a voulu tuer sa propre femme qui était une merveilleuse personne, et ensuite se suicider. Ayant échoué même en cela, du fond de son enfer, il lança un cri d'appel au Christ. Au lieu de se donner la mort, il livra sa misérable vie à Jésus-Christ. « Seigneur, aie pitié de moi. Ô Seigneur, sauve-moi. » Et il fut guéri, il fut pardonné, il fut sauvé et même rempli du Saint-Esprit. Et que croyez-vous ce qu'il fait aujourd'hui? Mario et sa femme servent Dieu dans la jungle asphaltée des rues d'un des ghettos du crime à New York. Certes, quand on sert Dieu avec l'esprit de la croix, dans la renonciation aux revendications du moi, dans l'annonciation et la vision du ciel. On est encore souvent en difficulté, mais on n'est jamais en état prolongé de désespoir spirituel, jamais. Qu'il est émouvant ce témoignage chrétien de l'apôtre Paul. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus dans la détresse, mais non, absolument pas dans le désespoir. Et vous pouvez vérifier cela dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Oui, chers amis, convertis à Jésus-Christ, la parole de Dieu vous déclare ceci. Vous avez été régénérés pour une espérance vivante. C'est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Vous avez été régénérés pour une espérance vivante. Et cette espérance est une des merveilleuses victoires de l'esprit de la croix. Si cet esprit d'amour, si l'esprit de la croix, oui, si l'esprit de Christ habite en nous, alors nous sommes chrétiens. Oh oui, et cette espérance vivante transforme notre vision et notre attitude dans la souffrance. Nous sommes rendus capables de voir au-delà du brouillard qui parfois nous enserre. Nous savons que Dieu est vainqueur et que son règne vient. Alléluia. Et dans cette perspective, nous réalisons toute la relativité de la souffrance selon ce qui est écrit. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Romains chapitre 8, verset 18. Nous devrions plutôt nous réjouir. Cette victoire de l'esprit de la croix qui est l'espérance vivante fait de nous des chrétiens source et non des chrétiens éponge. Nous ne mendions pas de la sympathie, mais nous sommes rendus capables d'en donner gloire à Dieu, car le monde inconverti qui nous entoure a tellement besoin de vraie sympathie. Oui, mon frère et ma sœur, il a besoin de ta sympathie. Une fillette s'était douloureusement pincé les doigts à la porte du bureau de son père, et celui-ci, agacé par ses pleurs, cria d'en bas à sa femme qui se trouvait au premier étage, « Chérie, tu ferais bien de venir voir Mariette. Elle s'est blessée au doigt. » Pauvre chère petite, dit la maman, est-ce que cela te fait très mal? Oui, maman, mais pas autant que l'attitude de papa qui n'a même pas réagi, même pas dit, oh, que c'est dommage, que c'est triste. Rien, quand ça me fait tellement mal. Voyez-vous, une jeune femme lépreuse, un jour, a éclaté en sanglots après que la missionnaire lui a mis gentiment la main sur l'épaule en la priant de s'asseoir. Mais qu'y a-t-il, cher ami? Pourquoi tant de larmes? Madame, vous ne pouvez pas savoir. Ce sont des larmes de reconnaissance, car c'est la première fois qu'une main aimable, gentille, me touche depuis 6 ans. Ne serait-ce pas pour leur donner cette joie que Jésus-Christ touchait, rappelez-vous, les lépreux quand il les guérissait? Chers auditeurs, par l'espérance vivante de l'Esprit de la Croix, nous sommes consolés, pour fortifier, oui, pour fortifier, pour sauver et pour sauver du désespoir. C'est là notre devoir. C'est cela le vrai but de la vie et pour la gloire de Dieu. Chers amis, quand c'est l'esprit du moi qui se débat dans la souffrance injuste, le désespoir risque de nous enfermer et de nous ruiner. Quand c'est l'esprit de la croix qui préside en nous, nous sommes habités par une espérance vivante, douce et rayonnante en dépit de tout ce qui peut apparaître comme autant d'échecs. Quand le mauvais esprit du désespoir n'est pas chassé au nom de Jésus-Christ, c'est la mauvaise humeur et la tendance à l'isolement qui déjà nous en sert et qui pourrait bien nous mutiler jusqu'à la mort et peut-être au-delà. En effet, il n'est pas du tout certain que ce qui n'est pas animé par l'Esprit de Christ subsiste après la mort des chrétiens. Lisez, notez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 15. Si cela était, oui, si tout ce qui n'est pas animé par l'Esprit de Christ devait être consumé, que resterait-il de tes œuvres, de tes écrits, de ta personnalité, mon frère et ma sœur? Ne penses-tu pas qu'il y aurait bien quelques petits tas de cendres? Cependant, quand l'Esprit de la Croix demeure en nous, il nous unifie et l'espérance victorieuse nous console et nous rend disponibles et proches de notre prochain, le cœur ouvert, la main tendue, souriant même au travers des larmes. Quelle victoire que celle du Christ sur la croix! Il ne succomba pas au désespoir et à l'isolement, mais par la confiance de l'amour, il garda la vision du paradis et de l'homme qui est à sauver. Ô Dieu, oui, remplis-moi de l'Esprit de Christ, et qu'en moi puisse triompher cette espérance qui ne trompe pas. Alors, l'espérance dans mes épreuves établira la certitude de ma participation à la victoire de l'Esprit de la Croix. Chers amis, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains, chapitre 15, verset 13. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner une parole d'encouragement. Prenez courage et n'ayez pas peur. repartez pour une nouvelle étape. Tournez le dos à vos vieilles erreurs et repartez. C'est le Seigneur qui vous donne ce nouveau départ. Ne vous encombrez pas de fardeaux. Ne vous mettez pas en peine. Si son pardon n'était que pour les justes, pour ceux que le péché n'a pas touchés, où en serait la nécessité? Souvenez-vous, comme il le déclarait autrefois à la pécheresse repentante, que celui à qui l'on pardonne beaucoup aime beaucoup. Pourquoi faire tant d'embarras et vous désoler à ce point? Le Seigneur est tout prêt à vous donner tout ce que vous pouvez recevoir de meilleur, mais vous êtes tourmenté et agité. Vous ne pouvez, dans cet état, recevoir ces trésors sans les mettre en pièces. Voyez-vous, seuls les cœurs contents et reconnaissants peuvent recevoir les grâces de Jésus-Christ. Maintenant, prions ensemble. Maintenant, ô notre Dieu, nous te célébrons parce que tu es bon et que ta bonté demeura toujours. Nous étions errants, nous étions solitaires dans le désert, et tu nous as dit, c'est moi qui paîtrai mes brebis et qui les ferai reposer, je chercherai celle qui est perdue, je banderai celle qui sera blessée et je fortifierai celle qui sera malade. Nous étions affamés et altérés, notre âme défaillait, et tu nous as dit, bienheureux sont ceux qui sont affamés et altérés de la justice, car ils seront rassasiés. Nous avons crié à toi dans notre détresse, et tu nous as dit, venez à moi. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Nous étions comme ceux qui habitent dans les ténèbres de la mort. Et tu nous as dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui sommes-nous, Seigneur Jésus, pour avoir été ainsi les objets de ton amour, et de tes compassions? Et que sont, auprès des biens que tu nous as acquis au prix de ton sang, les biens périssables de la terre? Ou ces épreuves passagères. Oh, apprends-nous à nous détacher de plus en plus des choses visibles qui ne sont que pour un temps, pour nous élever vers les choses invisibles qui sont éternelles. Que ton Saint-Esprit nous éclaire dans toutes nos voies et sanctifie toutes nos pensées, et que ta paix soit avec nous et avec les nôtres pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère que vous continuerez à écouter ces messages, ces études, car la série « J'ai choisi le Christ » continue encore pour un moment. Merci et à bientôt à nouveau, mes très chers amis.